Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, il s'agit de Fuseli. Derrière ce nom magnifique qui fuse dans l'espace comme un trait de pinceau ensauvagé, exista un des peintres les plus étranges de cette période d'ombre et de lumière que fut le tournant des révolutions européennes de la fin du XVIIIe siècle. Extrême en tout, comme disait de lui son ami le physiognomoniste et pasteur Lavater, Fuseli. Aimé par les surréalistes au XXe siècle, admiré et contesté tout à la fois par Goethe, Fuseli déploie une œuvre paradoxale où se côtoient les voluptés et l'enfer, le sublime et peut-être le grotesque. Peintre d'une érudition exceptionnelle qui fut considéré comme un des meilleurs spécialistes et conférenciers sur l'art lorsqu'il enseigna à la Royal Academy, Fuseli ne ressemble à personne et son ami, élève puis opposant, l'artiste Benjamin Haydon dit de lui « Les forces agissantes dans l'esprit de Fuseli sont le blasphème, la luxure et le sang. Ces femmes sont toutes des putains et ces hommes des bandits. Putains, elles ne le sont pas pour se délecter des envies de la chair, mais par haine, par ressentiment à l'égard de la vertu. Et si ces hommes sont des gredins, ce n'est pas par un audacieux désir d'aventure et de risque, mais par une incoercible rébellion contre l'oppression morale. » Étrange. Qui est ce Fuseli? C'est ce qu'une exposition qui se tient en ce moment au Kunstmuseum de Bâle nous révèle. Et pour en parler, j'ai la chance de pouvoir nous entretenir avec sa commissaire, Eva Reifert. Bonjour Eva.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci.
Vous avez traversé les Alpes pour venir nous voir?
Oui, bien sûr.
Ça s'est bien passé?
C'est une grande occasion.
Pas de Sturm und Drang?
Pas de Sturm und Drang, non.
Alors qu'est-ce que ça veut dire Sturm und Drang?
Sturm und Drang, oui, c'est quelque chose qui décrit une époque entre le classicisme et le romantisme.
Et comment vous traduiriez en français?
Ah, je sais pas, c'est trop dur pour moi.
Non, il n'y a pas de l'orage là-dedans?
Sturm und Drang, je sais pas, on peut pas le traduire, je crois.
L'orange et le fracas, comment est-ce que vous feriez? Amandine Rabier, puisque vous êtes historienne de l'art et vous nous avez rejoint aussi pour parler de cela, parce que vous êtes une spécialiste de Fuseli, vous avez fait une thèse dessus qui s'appelle comment?
Henry Fuseli, le spectacle de la peinture d'histoire.
Alors, parce que vous dites Fuseli, c'est ça?
En fait, j'ai choisi la dénomination de Fuseli pour ma thèse parce que je m'occupe de sa carrière anglaise.
Est-ce qu'il a changé de nom en cours de route, vous voulez dire?
En fait, au début, il s'appelle Fuseli, mais quand il arrive à Londres...
Et Fuseli, c'était dans quel pays? Il est né où?
Il est né à Zurich. Il est né en Suisse allemande, en fait. Et le problème, c'est que quand il arrive à Londres, on a beaucoup de mal à prononcer son nom et il est victime de moqueries. Et donc, pour pallier à ce problème, il va moduler son nom jusqu'à trouver une orthographe qui le satisfait et qui sera Fuseli.
Ce que vous avez gardé, vous. Hein.
Exactement.
Mais il y a eu aussi un nom italien, ou je me trompe, parce qu'il a passé 7 ou 8 ans en Italie.
Absolument, oui. Ouais. Et en fait, son orthographe change aussi en Italie. Ça passe par Fuseli. Enfin, il y a plusieurs aussi modulations. Je pense qu'il s'amuse lui-même. Vous savez, il signe même... ses dessins d'un petit pied parfois, parce que je crois qu'Eva me confirmera, enfin c'est à Eva de nous dire, mais Fuseli me semble qu'en alémanique ça signifie petit pied. Et donc il joue avec ça.
Ça vous dit quelque chose, la traduction de Fuseli comme un petit pied,
ah,
Eva?
Oui. En allemand c'est kleiner Fuß, oui.
Ah oui, donc c'est...
Oui, en Suisse allemand, oui.
Et donc il a signé avec cette sorte de représentation?
Oui, je crois. Peut-être dans les...
dans des dessins romains.
Dans des dessins, oui.
Ouais, oui.
À l'époque romaine. Mais là, il était très jeune, parce qu'en fait, il est parti à Rome assez tôt pour faire le fameux voyage initiatique qu'on fait toujours à Rome.
Oui, alors, très jeune dans sa carrière. Mais en fait, il est né Enfin, il commence sa carrière de peintre assez tardivement, finalement, sous l'impulsion, enfin, sur les encouragements de Reynolds en 1768.
Reynolds, qui est un grand, grand peintre anglais, aux côtés duquel il est enterré, je crois.
Alors là, vous en savez plus que moi, figurez-vous.
Ça peut arriver. et donc, lorsqu'il va commencer sa carrière d'artiste, c'est après avoir été, vous pouvez nous raconter ça, Eva peut-être, avoir été contrarié par ses parents qui voulaient qu'il devienne pasteur.
Oui. Alors, il est né à Zurich, comme vous avez déjà dit, et après, son père était déterminé qu'il devient être un pasteur. Mais ils étaient très, très intéressés à la littérature déjà et aussi aux arts. Après, étudie la théologie. Il a décidé de devenir un dessinateur.
Et quand il étudie, est-ce que vous pensez que ça a influencé son travail, ce travail de cette recherche de théologien qu'il a fait pendant une partie de sa vie, sachant qu'on est dans un milieu assez particulier dans l'histoire du protestantisme à Zurich à cette époque-là, et sous l'influence d'un personnage qu'on appelle Zwingli.
Oui, non, mais il a bien sûr, il a appris avec ses études de la théologie, il a appris le grec et aussi le latin, et il a parlé tous les deux langues couramment. Et alors ça, c'était une grande influence. Et ses professeurs à Zurich, il était très très jeune, l'âge de 15, je crois. Ils étaient des intellectuels, Johann Jakob Bodmer et Johann Jakob Breitinger. Et ils lui font connaître la littérature de Homer et de Shakespeare. Et c'était à ce temps-là qu'il était introduit à cette littérature. Alors, il a terminé ses études de la théologie, mais il était déjà intéressé aux langues anciennes et à la littérature.
Alors, il se passe ceci, c'est que d'abord il a un ami d'enfance très étrange qui va l'accompagner toute sa vie, Lavater, qui est à la fois un pasteur lui aussi, il va devenir pasteur, et surtout l'inventeur d'une science très particulière, ou en tout cas le développeur d'une science très particulière, qu'on appelle la physiognomonie, qui a eu beaucoup d'importance dans l'art, je pense à Champagne par exemple, ou d'autres. Qu'est-ce que c'est, ou Lebrun encore plus, qu'est-ce que c'est que cette physiognomonie de Lavater?
Alors c'est un livre avec où il présente la physionomie humaine en relation avec des typologies. Alors il présente une typologie de la physionomie. Et Fuseli,
la physionomie, ça veut dire reconnaître les caractères de quelqu'un à partir des traits de son visage.
Les émotions, les sentiments et le faire reconnaître très, très immédiatement, parce que c'est apparent quand ils sont très forts et exprimés fortement.
Ça a eu une énorme influence au XVIIIe et XIXe siècle.
Oui, et aussi au tableau de Fuseli, bien sûr.
Alors, dans les tableaux de Fuseli, ensuite, ça a été détourné, si je puis dire, comme science de façon très négative au XXe siècle, à la fin du XIXe et au XXe siècle. Et Amandine, donc vous avez vu l'exposition qui est au Kunstmuseum de Bâle en ce moment?
Absolument, qui est magnifique.
Et est-ce que vous avez l'impression que Fuseli est un artiste qui est connu en France, par exemple, vous qui êtes une historienne française?
Alors, je pense qu'il l'est beaucoup moins qu'en Suisse ou en Allemagne ou en Angleterre. En Suisse, où c'est quasiment un trésor national, Fuseli. Disons qu'il commence... il commence à émerger comme une figure importante dans l'histoire de l'art au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, parce qu'il incarne une peinture un peu hybride, en fait, et extrêmement libre, qui s'affranchit de tout, qui tord en tout cas les règles académiques. C'est ça qui est extraordinaire avec Fuseli, c'est qu'il donne des conférences à la Royal Academy, et en gros, il fait
le contraire.
Exactement le contraire de ce qu'il propose.
C'est quand même, peut-être qu'il faut dire à nos auditeurs que c'est un artiste d'une étrangeté totale. Son dessin est très très facile à reconnaître. Fuseli se reconnaît parce que c'est très stable, non? Vous, sur toute la période, il est mort assez âgé, n'est-ce pas Eva? Il est mort vers 80 ans.
Ouais. Il trouve son style comme autodidacte, en autodidacte à Rome. Et après, il ne gagne rien. Je crois, Mais c'est un style très, très idiosyncratique. Et on peut le reconnaître immédiatement.
Oui. Amandine, ouais. C'est un fabuleux dessinateur, mais il commence à dessiner déjà avec son père, en fait. Et c'est presque un dessinateur contrarié à la base, parce que son père le destinait, lui, à une carrière de pasteur, et un autre de ses frères était destiné à une carrière d'artiste. Et en réalité, quand il arrive à Londres, c'est pas pour devenir peintre au départ. Il sait pas trop ce qu'il veut devenir, c'est écrivain. En fait, il veut devenir quelqu'un. Et il sait pas encore comment, ni sur quel mode, mais il s'attend pas à devenir un dessinateur. Et c'est vraiment Reynolds qui va le convaincre. Et il va se révéler dans ses années à Rome, tout le travail qu'il va faire à Rome va le suivre tout au long de sa carrière après. Tous ses albums romains.
Il commence à peindre seulement à Rome. Avant, il a seulement fait des dessins.
Des dessins.
Alors, il y a quelque chose de très curieux, Eva, je ne sais pas si vous ressentez ça comme moi, c'est que dans tous les tableaux de Fuseli, il y a une référence au visage classique romain, avec ce nez qu'on retrouve même dans le néoclassicisme. Et puis, il y a une extension, une souplesse du corps qui ne correspond pas à la rigidité de statue qu'ont les visages. Ouais. Il y a une opposition interne au dessin qui est très étrange, n'est-ce pas?
Oui, c'est quelque chose qu'il mentionne dans ses aphorismes. Il y a une collection des aphorismes qu'il a écrit. Et il fait mention de cette typologie. Il dit qu'on peut présenter le sublime ne qu'avec des types. Le sublime n'est pas individuel. Alors il faut trouver un langage pictorial pour présenter quelque chose qui est surhumain, on peut dire ça.
Bien sûr.
Et oui, alors sa façon à décrire quelque chose qui est plus grand que l'humanité.
Alors peut-être qu'on peut dire que, d'abord, il faut dire à nos auditeurs qu'ils connaissent tous un tableau de Fuseli sur lequel on va revenir dans le courant de l'émission, mais pas tout de suite, qui est le cauchemar, puisque ce tableau dont la gravure était dans la chambre de Freud, dans le bureau de Freud. Hein, donc, vous avez cette femme allongée avec un terrible personnage qui est assis sur son corps. Donc vous le connaissez tous, chers auditeurs, ce tableau. Donc vous l'avez en tête. Mais il y a dans tellement d'autres œuvres qui ont en commun, c'est un petit peu ce que vous dites, qui ont en commun de représenter des situations dramatiques, inspirées souvent, et vous insistiez là-dessus tout à l'heure, sur de la littérature et des grands moments de la littérature, Shakespeare et puis Milton peut-être.
Oui, Shakespeare, Milton, Homer. Ce sont les trois héros de Fuseli.
Et puis un petit peu les légendes germaniques.
Oui, la mythologie. Hein? Alors, dans l'exposition aussi, on a décidé de la structurer thématiquement, dans une façon thématique, pour présenter ça. Alors, pour vraiment présenter les chapitres avec les histoires de Homer, de la mythologie du Moyen-Âge et la littérature plus contemporaine. Shakespeare, on a deux salles avec Shakespeare et ses tableaux de John Milton. Et après, aux dernières salles, on a une réflexion dans un niveau méta, on pourrait dire, sur sa relation avec la littérature en général. Alors, pour vraiment présenter et montrer que sa façon de penser était narrative.
C'est quasiment, comme les signes sont constants, je ne sais pas ce que vous en pensez, Amandine, les signes, la façon dont ils dessinent, c'est quasiment une façon d'écrire, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est des signes qui se répètent et qui sont toujours le symbole de quelque chose.
Oui.
Et vous, qui êtes une spécialiste du spectacle, puisque vous avez travaillé sur Fuseli et le spectacle, la question de la représentation du spectacle en peinture, finalement, est-ce que vous avez l'impression que c'est une peinture qu'on peut dire théâtrale? Et est-ce que le théâtre a de l'influence, non par le texte, mais par le dispositif scénique?
Complètement. Alors, je me méfie du terme théâtral, mais vous avez tout à fait...
choisissant un autre, hein.
Mais vous avez tout à fait raison. Déjà, sur le point de la répétition, Fuseli est un artiste qui travaille de manière sérielle. Il a un rapport assez obsessionnel à certains de ses thèmes et à certaines de ses compositions aussi. Donc, il réutilise certaines de ses compositions pour différents thèmes. Et il utilise aussi et se réapproprie les thèmes. Je vous donne un exemple.
Allez-y, un exemple.
Vous avez un dessin. Alors là, je parle de son rapport au théâtre.
Il faut que vous nous le décriviez, hein, parce qu'on est à la radio, il faut qu'on voit les images.
Je sais ce que je vais faire. Alors, le premier dessin date de 1766-68, donc ses premières années à Londres, donc ses années d'apprentissage. Il commence à peine son travail de dessinateur. Et là, il va énormément au théâtre. Déjà pour se familiariser avec la langue anglaise, et puis parce qu'il adore ça. Sur la scène de théâtre, il y a deux stars qui sont David Garrick et Mrs. Pritchard. Et il donne les représentations de Macbeth, qui est la pièce de théâtre la plus jouée à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Il représente une scène, l'instant fécond, comme dirait Lessing, c'est-à-dire le moment paroxystique où David Garrick, donc qui joue le personnage de Macbeth, et Mrs. Pritchard, donc Garrick, Macbeth, vient de tuer Duncan. Et donc, il est représenté tenant les couteaux, affolé par ce qu'il vient de commettre, et Lady Macbeth, sur la droite du tableau, qui a l'air déterminé et qui veut l'encourager dans son action et à ramener les couteaux, d'ailleurs, sur la scène du crime. Et donc, tout le dispositif scénique est instauré là, mais de manière assez maladroite. On a la scène en surplomb, on a du côté droit un morceau de rideau, et tout est imité de manière assez descriptive. Il y a une imitation de la scène assez descriptive, si vous voulez. Et les personnages sont en costume d'époque. En Rome, il reprend exactement la même composition, mais comme vous le dites, dans une atmosphère beaucoup plus antiquisante, où Lady Macbeth devient une sorte de ménade dans une danse un peu macabre. Et d'ailleurs, ça atténue un peu l'aspect dramatique des choses. En 1812, il reprend exactement la même composition, donc, c'est-à-dire plus de 40 ans plus tard, pour en faire un tableau qui s'appelle Lady Macbeth saisissant les poignards. Et là, on retrouve exactement la même scène. Sauf que on a affaire à un Macbeth qui est devenu une forme de personnage squelettique et diaphane, et une Lady Macbeth complètement aliénée, prête à surgir sur Macbeth. Et là, on retrouve une sorte de dématérialisation de l'espace, si vous voulez, où la scène, le spectacle, est réduit au plus simple indice de la scène. On retrouve juste le rideau et la scène en surplomb, et toute la scène est dans l'obscurité. Et donc là, Fuseli réduit aux indices, ce que j'ai appelé les signes matériels, les indices les plus simples de la scène, pour représenter le spectacle.
Là, c'est quelques traits blancs.
Exactement. Les personnages sont en blanc et l'arrière-plan est complètement plongé dans l'obscurité. Et ce que cherche à faire Fuseli, qui est une quête de tous les artistes à cette époque, enfin en tout cas ce après quoi court Fuseli, c'est l'effet. C'est l'effet en peinture. La dramatisation et l'effet. Et pour moi, ces signes matériels contribuent à mettre en scène et à spectaculariser sa peinture.
Donc, cet effet fait que ses tableaux sont toujours dramatiques, vous le disiez, liés à l'idée du sublime. On va y revenir, d'ailleurs, on va écouter un texte de Burke qui l'a beaucoup inspiré, évidemment, qui a beaucoup inspiré Fuseli, évidemment. Ça fait étrangement un peuple de personnages qui sont très irréels. On pourrait dire que c'est des fantômes un peu, non, tous ces personnages. Qu'est-ce que vous en pensez, Eva?
Je dirais que ce sont des types, pas des fantômes. Et aussi, il faut dire que ce tableau que vous avez décrit, c'est pas vraiment représentatif de son œuvre. Alors, c'est une exception. Et en fait, j'ai parlé avec des collègues en Angleterre qui ne sont pas certains si c'est en fait un tableau qui était fini et considéré comme achevé par Fuseli.
Ça le rend encore plus extraordinaire,
oui,
je veux dire.
Oui, hein, oui, c'est un tableau extraordinaire et très, très connu en Angleterre. Oui, mais c'est quand même, c'est exceptionnel. Et il y en a que ce tableau dans cette manière de la peinture. Et ça, c'est intéressant. Mais tous les autres figures sont plus comme des héros, comme des super-héros, on pourrait dire.
Vous avez tout à fait raison.
Très
musclés. Il y a des tableaux où on a l'impression qu'on est en train de regarder, qu'est-ce que je pourrais dire, le surfeur d'argent dans des bandes dessinées des années 50.
Oui.
Hein, c'est très extraordinaire, avec la nature est très obscure, oui, avec légèrement des tourments, on voit presque rien derrière et à peine une petite figure esquissée en mouvement dynamique sur une fine planche comme ça, on ne sait pas ce que c'est.
Il y avait une exposition à Francfort l'année dernière et il était discuté dans ce contexte d'être un précurseur, comme un précurseur des bandes dessinées. Et aussi, il a eu une influence énorme à la caricature de son temps. Alors là aussi, vous trouvez cette manière exagérée et dramatisée.
Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire. Alors, le fait qu'il n'y ait pas au fond, c'est un des premiers quand même chez lequel il n'y a presque rien de réel derrière les personnages. Les personnages sont très bizarres, ils ne ressemblent pas tout à fait à des humains, ils ressemblent à des gens venus d'une autre planète, très souvent. Hein, vous les reverriez dans la rue, vous seriez stupéfaits. Et derrière, il y a très peu de coordonnées liées à la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine ? Est-ce que la réalité a disparu au profit d'une réalité psychique ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors là, je vais encore parler du rapport au spectacle.
Vous étiez là un peu pour ça. Je me doutais que vous iriez dans cette direction.
Alors, je vais faire un parallèle avec les modifications de la scène au théâtre à la fin du XVIIIe siècle. En fait, la scène se modifie énormément dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et on passe d'un rapport scène-salle qui est assez ambigu et poreux, où les spectateurs peuvent s'installer sur la scène. Enfin, les aristocrates sont invités à s'installer sur la scène, à discuter avec les acteurs. Ça, c'est au début du XVIIIe siècle. Et puis, David Garrick instaure une séparation entre la scène et la salle. Il instaure ce qu'on appelle les footlights, donc c'est des rampes de lumière, donc qui distinguent vraiment la scène de la salle.
Et David Garrick, c'est qui ce David Garrick?
David Garrick, c'est l'acteur qui va transformer le jeu d'acteur et qui va transformer aussi l'architecture du théâtre au XVIIIe siècle.
Et c'est par la lumière qu'il va y parvenir?
Ah, mais partout. Par l'architecture de la scène, il va faire énormément de modifications.
Et ça influence Fuseli, par exemple.
Ah ben complètement.
Et aussi, il faut Eva. Dire que c'était l'acteur le plus connu, pas seulement à ce temps, mais peut-être c'est l'acteur qui est le plus important de tous les...
Absolument, oui. Ouais.
C'était
après
lui,
Jean Gabin, probablement. Hein,
c'était lui qui a introduit et fait connu Shakespeare aux audiences. C'était lui qui a vraiment installé Shakespeare et établi Shakespeare sur les scènes en Angleterre.
Ah mais complètement, il est vu comme le représentant de Shakespeare sur Terre, en fait. C'est vraiment un intercesseur presque.
Et il a aussi changé le style, comment représenter un personnage sur la scène. Alors c'était une façon très très nouveau à représenter.
C'est ça, il instaure un jeu un peu plus naturel. Pardon, reviens à votre question. Et donc, du coup, cette séparation scène-salle encourage aussi à circonscrire un univers à part entière. Le spectacle incarne un monde étranger, ce qui n'était pas le cas avant, en fait, avant
la fin du XVIIIe. On n'est pas du tout, parce que dans les tableaux de Fuseli, il n'y a quasiment pas de représentation du monde réel. Parfois, il y a un rocher battu par les vents. Parfois, on verra d'ailleurs, il est précurseur de Martine, par exemple, de grands artistes romantiques qui vont montrer une sorte de terribilità de l'univers.
Oui, c'est pourquoi il est regardé comme vraiment le moment, comme une rupture entre le classicisme et le romantisme, parce que c'est lui qui introduit l'imagination au tableau et qu'il décide que l'imagination c'est plus important que, par exemple, l'anatomie. Alors, c'est pourquoi toutes ces figures sont pas vraiment naturelles, parce qu'ils ne sont pas conçus comme quelque chose qui est... qu'on pourrait, je ne sais pas, donner un rendez-vous au quotidien, aux vies quotidiennes.
On va écouter un petit texte sur, parce que vous avez dit ce mot, on ne peut pas passer à côté, parce que c'est un mot qui est tellement déterminant, qui est le mot de sublime. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette question du sublime, après qu'on ait entendu le texte du grand philosophe Burke? Allons-y.
Ayant vu que la terreur excite dans les nerfs une tension extraordinaire et des émotions violentes, il nous est facile de conclure de ce que nous venons de dire que tout ce qui est propre à produire une telle tension doit causer une passion analogue à la terreur, et par conséquent, être une source du sublime des choses que la nature a rendu propre à produire cette sorte de tension, soit par l'opération première de l'âme, soit par celle du corps. Mais si le sublime est fondé sur la terreur ou sur quelque passion analogue à la terreur qui a la douleur pour objet, il convient avant tout d'examiner comment il peut naître quelque sorte de délice d'une cause qui est en apparence si contraire. Je dis « délice » parce que, comme je l'ai remarqué plusieurs fois, il est très évidemment différent, dans sa cause et dans sa propre nature, du plaisir actuel et positif. Edmond Burke, 1757.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'art et la matière, et nous sommes en train de parler avec cette musique dramatique qui des prémices de la Révolution, puisque Edmund Burke, dans les années 50, 1750, évidemment, c'est né juste avant la Révolution, le monde va basculer. Et là, nous écoutons ce rapport très étrange entre terreur et délice. Et je suis avec Eva Reifert, conservatrice du Kunstmuseum de Bâle, et Amandine Rabier, historienne de l'art, et nous parlons de Fuseli. Qu'est-ce que c'est que cet rapport entre terreur et délice dont parle Burke, et est-ce que ça a de l'influence sur Fuseli, Eva?
Oui, alors le sublime, c'est vraiment le terme qui est le plus important dans le contexte du discours de l'esthétique en XVIIIe siècle. Et Fuseli est très influencé par ce terme, et aussi il y en a des gens qui croient qu'il était très informé et qu'il avait lu tous ces textes de la théorie sur le sublime. Mais il y en a aussi les gens qui, et les scolaires, bien sûr, qui pensent que pour lui, c'était vraiment un terme qu'il a utilisé pour décrire le spectacle. Et qu'il n'était pas vraiment intéressé en définir proprement ce terme comme un terme de la philosophie, mais qu'il était vraiment intéressé pour expliquer le spectacle, quelque chose qui est formidable et spectaculaire et
délicieux. Blanc,
délicieux.
Mais oui.
Et alors il était très intéressé au thème qui montre le terreur délicat et délicieux.
Qu'il retrouve dans les tragédies de Shakespeare.
Dans les tragédies, mais aussi dans la littérature contemporaine. Alors le gothic horror genre, par exemple.
Et le roman noir, qui commence pas tout à fait là, mais on a les prémices.
Complètement. Hein? Ouais. En fait, il faut dire aussi pourquoi.
Amandine,
pourquoi cette horreur est délicieuse.
Pourquoi?
C'est-à-dire que ça relève d'un plaisir négatif, en fait, que Burke assimile au sublime. Et pour lui, l'expérience du sublime relève non pas d'un plaisir positif, donc un plaisir pur, mais de ce delight, donc de ce délice, parce que c'est l'idée d'être confronté à cette peur, d'en éprouver le sentiment, d'éprouver la peur et cette terreur, sans être directement impliqué, donc sans en subir les conséquences. C'est un petit peu l'idée du film d'horreur, si vous voulez. Quand vous regardez un film d'horreur et vous avez le plaisir d'éprouver cette horreur sans en subir les conséquences, c'est exactement la même chose là. Ce qu'il appelle cette chose là, c'est la conservation de soi, en fait. C'est ça, ce délice. Éprouver la peur sans être impliqué.
Ça, c'est très clair.
Oui, et ça lui donne aussi, ça lui donne aussi la possibilité pour montrer sa abondance de fantaisie et de l'imaginaire. Alors, il invente des scènes et il les interprète. Alors, bien sûr, il utilise des sources de la littérature, comme Shakespeare ou John Milton, mais il les interprète, il ajoute sa propre fantaisie et imagination.
Oui, il n'est pas seulement un illustrateur de ces grandes... Ouais. Il les réinvente. Est-ce que vous ne pensez pas que dans la puissance émotionnelle qu'il essaye de créer dans ses peintures, il y a la volonté de substituer à la disparition de la compassion religieuse, par exemple, à l'intérieur des tableaux, une autre émotion qui, cette fois-ci, est délicieuse, qui est celle d'être complètement épris et pris par le drame qui est devant soi. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment aussi de basculement entre la raison et la foi, dans lequel il faut recharger l'œuvre d'art. Qu'est-ce que vous en pensez,
oui.
Amandine ?
Alors déjà, c'est ce que je vous dis, c'est que chez Fuseli, il y a vraiment une volonté de toujours rechercher l'effet immédiat et l'efficacité de l'effet. Ensuite, pour la question de la religion, on est en Angleterre, en fait. Et, pardon, mais la religion, en fait, c'est Shakespeare. Et donc, Shakespeare se substitue véritablement à la religion et on va utiliser Shakespeare pour incarner véritablement l'identité nationale, en fait.
Je comprends. Donc, il y a un nationalisme là, mais bon, en même temps, il n'est pas anglais, lui. Il pourrait s'en écarter.
Mais au contraire, il s'identifie complètement à Shakespeare. Ce que disait tout à l'heure Eva, c'est-à-dire qu'il a été influencé par le philosophe Bodmer, notamment, qui l'a imprégné de cette culture anglaise, en fait. Et lui-même, dans ses écrits, Bodmer est très influencé par la culture anglaise, en fait, de Joseph Addison, par exemple, où il reprend, dont il reprend la pensée, dont il a lu les textes.
Eva ?
Et bien sûr, il connaît les textes de Shakespeare dès qu'il était jeune. Mais quand il arrive à Londres, ça lui donne vraiment une opportunité à devenir fameux ou célèbre.
Il faut dire qu'il y a un personnage qui veut créer une galerie Shakespeare, une sorte de monde total de Shakespeare qu'on lui commande.
Oui, il y avait cet éditeur qui était très, très, très important à ce temps, du 18e siècle, John Waddell. Et il lui a commandé à peindre trois tableaux pour cette galerie littéraire. Et ça, c'était vraiment un projet où John Boydell a essayé à créer une art national en Angleterre. Au contraire, le classicisme français.
Et après, oui, parce qu'il faut imaginer que simultanément, il y a un David qui travaille en France pour montrer un écart extraordinaire. Mais simultanément, il y a un autre personnage qui va considérer que Fuseli a 100 ans d'avance et que Fuseli va protéger, c'est Blake.
Oui.
Ça vous n'avez pas l'air d'être d'accord, Amandine.
Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par protéger, en fait.
Parce que Blake va dire « je suis prêt à m'engager de la tête et des épaules pour défendre Fuseli, alors qu'il est critiqué, et cet homme a 100 ans d'avance, il n'est pas toujours compris, etc. »
Oh, mais je ne crois pas que Fuseli ait besoin d'être protégé.
Non, vous pensez que
ce
n'était pas la peine?
Et je crois que Blake est un dissident, mais vraiment, il est complètement en marge, en fait. Et Blake a une fureur dans sa manière de discourir, dans sa manière de pratiquer son art. Donc, et Fuseli est dans l'académisme, mais tout en étant à l'extérieur, c'est-à-dire, il est l'alternative parfaite pour Blake. Et ils ont une amitié commune.
Il y a un désaccord fondamental sur la religion, justement. Je pense que Fuseli trouve que Blake exagère avec le monde religieux.
Ah oui, sans aucun doute, oui. Et puis en plus, il y a un côté messianique chez Blake qui déplaît sans aucun doute à Fuseli, oui.
Alors que chez Fuseli, il y a quand même un autre grand écrivain qui a beaucoup d'importance, qui est Milton. Et Fuseli en tire une opposition ou un combat qui doit le réjouir du point de vue visuel, en tout cas, c'est le combat entre Satan et Dieu, d'une certaine façon, non ?
Ouais. Alors Fuseli dit qu'il est vraiment seulement intéressé en trois genres, c'est le dramatique, c'est le sublime et c'est l'histoire ou l'historique. Et Milton appartient à ce genre du sublime pour lui. Alors il peint cette...
Alors Milton, il a écrit... qu'est-ce qu'il a écrit, Milton ? Dites-nous.
Le Paradis perdu.
Voilà. Ouais, donc qui est un livre extraordinairement important, qui a eu une influence sur tous les artistes, jusqu'à Delacroix, et qui est écrit vers 1670, par là.
Oui, c'était assez important. C'était le plus important, le livre le plus important à ce temps, à part de Shakespeare.
Ouais. Ah oui.
Et même toujours, aujourd'hui, c'est la même chose.
Vous dites, Eva, voilà trois catégories. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le drame ?
Le drame, le sublime et l'histoire.
Alors, en fait, il y a deux catégories dans lesquelles je trouve que certaines œuvres ne rentrent pas. C'est le cauchemar, Est-ce que c'est dans une de ces catégories? Parce que le cauchemar, tous nos auditeurs le connaissent. On va le décrire quand même, mais on va en parler un petit peu.
Ouais.
Et ensuite, vous nous parlerez peut-être aussi, peut-être c'est dans l'exposition ou pas, de l'infinité de dessins érotiques de Fousli, qui sont très étranges et pour lesquels il a un nom très bizarre. J'ai lu dessin avec un nom mathématique derrière. Ça vous dit quelque chose? Je vous retrouverai ça tout à l'heure. Parlez-nous un petit peu du cauchemar avant qu'on rentre plus loin, mais peut-être qu'on pourrait entendre ce que Fousli écrit en 1779 à son ami Lavater. Écoutons-le.
La nuit dernière, je l'ai eu dans mon lit. Mes mains chaudes et serrées l'étreignaient. Son corps et son âme ensemble ont fusionné avec les miens. J'ai déversé mon esprit, mon souffle et ma force en elle. Quiconque la touche maintenant commet l'adultère et l'inceste. Elle est mienne et je suis à elle. Et je l'aurai, j'espère. Johann Fousli, 1769.
Alors, vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et puis nous venons d'entendre un texte assez étrange du grand artiste du XVIIIe siècle, Fousli, dont nous parlons aujourd'hui, et j'ai la chance d'être avec deux historiens et la commissaire de l'exposition. Parlez-nous, Eva, en quelques instants de ce cauchemar, et peut-être ce que l'on entend, c'est le désir de possession de Fousli d'une femme à laquelle il n'aura pas droit, si je puis dire.
Oui, alors le cauchemar, peut-être il faut le décrire.
Allez-y.
Oui, alors il y a cette jeune femme qui est étendue sur un divan, et avec la tête penchée vers le bas, et elle semble sans vie, et elle a l'air morte. Comme peut-être elle s'est évanouie. Et en arrière-plan, il y a la tête d'un cheval au regard aveugle. Et cette tête, elle sort derrière un rideau. Et sur le ventre de cette femme est assise un lutin, alors comme un démon qui est associé avec les mauvais rêves. Et il y a un courant, quelque chose comme une connotation assez sexuelle et perturbante.
Très.
Très. Cette jeune femme aussi, on a dit qu'elle a l'air d'être violée. Alors c'est vraiment, c'était un œuvre très, très choquant pour les
Pour l'époque et encore aujourd'hui,
ouais.
D'ailleurs, je trouve.
Ouais.
Et qui a fasciné, effectivement, Freud, on le disait, mais qui a fasciné énormément d'artistes et d'écrivains. On va écouter tout à l'heure d'autres interprétations. Et qui est devenue une icône mondiale, on peut dire, non?
Oui, c'est devenu une icône avec Fousli est vraiment associé et relié. Mais ça, c'est aussi un problème. C'est devenu un problème parce que toutes les expositions, beaucoup, beaucoup des interprétations tournent vraiment autour de ce tableau. Et il n'y avait pas de place pour trouver une approche différente. Alors ça, c'est...
Vous en avez montré combien? Parce qu'il y a plusieurs versions. Et vous, dans l'exposition, vous en montrez combien?
On a une qui est assez tard, après le, je crois, 1810.
Est-ce que c'est la version sur laquelle il y a un recto-verso? C'est-à-dire il y a une peinture au dos?
Non, c'est pas un, il n'y a pas une peinture au dos, mais c'est une version assez rigolo, parce que ça n'a pas l'air... dramatique, mais plutôt humoristique.
En fait, il se peut que lorsqu'il a peint le premier tableau, quasiment 20 ans avant, il était dans une situation psychique et personnelle plus dure que celle qu'il a eue 20 ans après. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, le revers du tableau dont vous parlez,
oui.
C'est Anna Landolt qui... Enfin, non. On suppose être Anna Landolt.
Moi, j'y crois. Ouais.
Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, donc la nièce de Lavater, pour qui il avait eu
des sentiments,
oui, exactement,
et du désir,
il
ouais.
a été éconduit, et donc d'ailleurs c'est ce chagrin d'amour qui l'a fait rentrer à Londres. Et donc, on a coutume d'attribuer, enfin, d'identifier cette femme comme Anna Landolt. Je n'en sais rien, à vrai dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce revers, vous savez, enfin, vous ne savez pas parce qu'on n'a pas l'habitude de voir justement le revers de ce tableau, mais il est souvent montré en illustration et on a cette main.
J'allais en parler de cette main. Allez-y, c'est super. Je voudrais bien avoir votre avis parce qu'elle m'a fasciné, cette main.
Mais elle est fascinante parce qu'en fait, on a l'impression d'une créature, c'est-à-dire
autonome.
Une femme. Oui, alors la main
est autonome.
Complètement. Et une sorte un prolongement un peu hybride dont on ne sait plus si c'est une créature mi-humaine, mi-animale, enfin quelque chose.
Imaginez avoir un poulpe à la place des mains.
En fait, Fuseli adore l'hybridation des créatures. Il y a des personnages qui reviennent très souvent, qui sont assez récurrents, dont cette jeune fille à tête de papillon qui revient souvent aussi dans son œuvre. Donc il adore jouer avec ça.
Et cette main, il y a une obscénité dans cette main, parce que les doigts sont écartés, on dirait vraiment des jambes.
Il y a des griffes, des ongles qui se transforment en griffes comme un animal. Mais c'est surtout qu'on a l'impression qu'il malmène vraiment ces femmes, en fait. Et très souvent dans ses représentations, que ce soit dans le cauchemar, l'envers comme l'endroit.
Il y a beaucoup d'allusions curieuses, d'ailleurs, au féminin et aux femmes. Et il y a beaucoup de travaux avec une sorte de fétichisation de la coiffure. Oui. Mais on va revenir là-dessus. Peut-être avant d'en venir là, écoutons un instant une interprétation de ce cauchemar, ou en tout cas on a l'impression que ça l'est. C'est un texte de Maupassant, donc écrit 100 ans plus tard quasiment, dans le Horla et autres contes inquiétants. Écoutons Maupassant.
Un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché, que je dors. Je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine. Moi, je me débats, lié par une impuissance atroce. J'essaye avec des efforts affreux, en haletant, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Puis il s'est levé, repu, et moi je me suis réveillée, tellement meurtrie, brisée, anéantie, que je ne pouvais plus remuer. Guy de Maupassant, Le Horla.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez Maupassant, donc l'art et la matière, et nous étions dans une sorte de musique de cauchemar magnifique. Et c'est à propos, puisque nous parlons du cauchemar de Fuseli, et j'ai la chance d'être avec Eva Reifert, la commissaire et conservatrice du Kunstmuseum de Bâle et commissaire de l'exposition Fuseli qui s'y tient en ce moment. Eva, il y a ces quatre tableaux peut-être du cauchemar, mais qui existent, mais il y en a un dans votre exposition. Comme le public est fasciné, intéressé, arrive à décrypter, à trouver le rébus qu'il y a peut-être dans ce cauchemar, quelle est l'interprétation que vous allez faire?
Alors, on montre cette peinture aux dernières salles sous le titre de l'imagination et sa exploration de l'imagination et de la fantaisie. Alors, pour nous, c'est vraiment une preuve pour montrer que Fuseli et sa façon à penser étaient narratives. Mais ce tableau est assez extraordinaire pour son œuvre. Et c'est pourquoi... Alors, c'est intéressant, parce que normalement, on associe Fuseli avec ce cauchemar. Mais ce qu'on a trouvé dans cette exposition, c'est que les sources littéraires sont beaucoup plus importantes pour lui. Bien sûr, il était intéressé à dépeindre des rêves et il joue un rôle très très important entre le classicisme et le romantisme avec ses représentations des rêves. Mais le cauchemar est pas représentatif pour son œuvre.
Alors, c'est très particulier. Hein.
C'est très particulier. Et alors, on a refusé à donner une interprétation parce
Que
moi, je crois que ce n'est pas une œuvre qu'on peut résoudre comme un puzzle ou un jeu de devinette. Reste une dimension mystérieuse. Bien sûr, il y en a des sources littéraires comme ce poème de Erasmus Darwin, qui était le grand-père de Charles Darwin, et aussi cette histoire de Anna Landolt, mais c'est une interprétation qu'on impose.
Vous pouvez nous la dire quand même, qu'on se devine un petit peu, qu'est-ce que c'est l'interprétation?
Alors bien sûr, on a ce tête d'un cheval.
Oui, c'est bizarre quand même.
C'est très bizarre. Et on croit que peut-être l'étymologie du mot de cauchemar en Angleterre, alors le nightmare, a joué un rôle ici parce que le jument, c'est mare, c'est le mot ancien pour la jument. Et le lutin, bien sûr, c'est cette figure sur le ventre de cette femme. Et
c'est pas un lutin
être...
sympa, hein, c'est un horrible monstre
c'est
dégueulasse. Ouais.
C'est un monstre. Et c'est associé avec des rêves sexuels et des fantaisies sexuelles. Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine, de cette aventure?
En fait, ce qui est intéressant chez Fuseli, on parlait de son sens de l'humour tout à l'heure. Mais je crois qu'il s'amuse beaucoup, en fait, dans sa peinture. Et ce qu'il laissait aussi, il est tellement à l'aise avec la littérature qu'il en joue aussi. Il veut pas du tout être subordonné au texte. Ce qui fait que il arrive même parfois qu'il invente des sources littéraires et dont il dit auxquelles il aurait pris la référence, alors que pas du tout. En fait, ces sources n'existent pas. Et il invente des sujets par lui-même.
Un peu à la Borges, en fait, hein. Ouais, comme Borges qui imagine des références et qui nous fait croire que c'est vrai simplement pour nous lancer dans l'imaginaire. En fait.
C'est ça. Et la peinture devient un sujet. Enfin, il trouve un sujet autonome à la peinture, en fait, qui n'est plus subordonné à la littérature. Sur le cauchemar, il y a un très très beau texte de Jean Starobinski qui s'appelle Dans les trois fureurs, en fait. Et donc, il explique qu'il y a une ambiguïté dans ce tableau, en se demandant qui rêve finalement. Est-ce la femme qui rêve ou le peintre? Et donc on a une forme de personnification là, des sentiments aussi du peintre.
Et ce que vous disiez, Eva, c'est que dans le fait que vous souhaitiez garder une certaine obscurité à l'interprétation de ce tableau, c'est que vous voulez que ce soit le spectateur qui rêve et qui s'interprète lui-même, n'est-ce pas?
Oui, pour nous, dans le contexte de notre exposition, ce tableau fonctionne différemment, je crois. Alors, nous voulons vraiment montrer que ce que vous avez dit, qu'il invente, parfois il invente ses sources. Et dans ce cas-là, c'est vraiment l'imagination qui le guide. Oui. Et c'est ce qui est le plus important pour lui. Et il n'utilise pas une vraie source littéraire, mais il utilise son imagination. Et alors ce tableau, pour nous, peut montrer que c'est quelque chose inventé et pour gagner un effet, et le spectacle, et pour faire un spectacle dans cette exposition en 1748. 81 et 2, quand c'est montré à Londres dans cette exposition. Et c'était choquant et il est devenu connu instantanément. Mm-hmm.
Instantanément, c'est évidemment, ça a dû être extraordinairement fort. Alors, je voulais revenir sur cette histoire dont on parlait tout à l'heure, dans un texte très ancien, hein, puisque c'était dans l'exposition du Petit Palais, je crois qu'elle était en 1975, l'auteur parle de la passion que semble avoir Fuseli pour les cheveux, avec à chaque fois des coiffures totalement invraisemblables qu'il installe sur sa compagne d'ailleurs, ou sa femme d'ailleurs d'alors.
Oui, c'est Sophia Rawlings, en fait, qui devient son épouse. Et c'est vrai qu'il en fait une sorte de mondaine. Il adore représenter ces femmes de pouvoir, même omnipotentes, en fait. Et cette coiffure est l'un de ses pouvoirs, en fait. Et moi, j'ai appelé ça... J'ai fait un chapitre dans ma thèse qui s'appelle « La spectatrice ». Parce qu'il représente et multiplie ces femmes, en fait, qui se donnent au spectacle ou qui assistent au spectacle. Et ce sont véritablement des femmes qui prennent le pouvoir.
On l'a dans Samson et Dalila, par exemple, ou Dalila, une incroyable. Oui. Samson a été rasé et elle le domine. Oui. C'est la femme dominatrice. C'est très fantasmatique, quand même.
Oui, et puis là, il y a une représentation qui renvoie directement à la scène de théâtre, avec les ouvertures qui sont très présentes, qui renvoient directement à ce dessin de la scène, en fait. C'est signe matériel de la scène.
Il y a énormément de dessins érotiques chez Fuseli. C'est intéressant aussi dans ce monde qui est en train de se libérer de l'ensemble des carcans, dans la révolte qui a lieu à ce moment-là à l'égard de toutes les règles de la société.
Oui, et encore Sophia Rawlings, donc son épouse, en a détruit énormément, en fait, pour éviter de porter atteinte à l'intégrité morale de Fuseli. C'est bien dommage, parce que ses dessins sont fabuleux, mais ses dessins érotiques sont incroyables.
C'est une sorte de curieuse géométrie des corps, hein, des combinaisons folles sont inventées.
Oui, et là encore, il y a une puissance féminine qui s'empare du corps de l'homme et qui... Il adore faire jouer ce rôle-là, l'homme soumis et les femmes omnipotentes. Ouais.
Oui, c'est toujours, hein, vous sentez ça dans l'exposition.
Ouais.
Hein, c'est assez frappant. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé. J'aurais bien aimé vous faire écouter quelque chose là-dessus, mais il en parle beaucoup dans ses conférences. C'est Michel-Ange. Parce que quand il a été à Rome au début de sa carrière, hop, j'abandonne les femmes et je me précipite dans le début de sa carrière, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler un tout petit peu. Il y a Michel-Ange. Michel-Ange, ça a une importance considérable pour lui, n'est-ce pas?
Oui, quand il est à Rome, il va à la Sistine Chapel, comment on dit?
À la Chapelle Sixtine.
Chapelle Sixtine. Et il voit ces fresques-là et il tombe amoureux. Et après, il prend le modèle de Michel-Ange comme le plus grand peintre au monde. Et il va émuler ces fresques de la Chapelle Sistine dans un projet pour une chapelle pour Shakespeare. Mmh. Et ça, c'est incroyable, vraiment. Il dessine, il fait des dessins d'une chapelle pour commémorer Shakespeare, le plus grand.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez, au fond, il n'y a pas de Dieu parce qu'il y a Shakespeare. Shakespeare,
ouais,
c'est le Dieu.
Mmh. Ouais. Oui, alors ça, c'est son modèle. Et on a, dans notre exposition, on a la peinture de Crazy Kate, qui est le modèle après la source de William Cooper, un poème, le poète de 100 ans. Et Crazy Kate a une grande ressemblance avec les sibylles de la chapelle. Ouais.
C'est vrai, oui.
Alors, il y a évidemment, Michel-Ange, avec ses textes magnifiques, cette conférence magnifique qu'il fait sur Michel-Ange, tout ça a été réédité, vous pouvez le trouver dans ça a été réédité par les Beaux-Arts de Paris, donc il y a une très 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 bon texte, très très bonne édition de toutes les conférences de Fuseli. Mais il y a aussi une des critiques très fortes du maniérisme. Or, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression, au fond, que s'il y a quelqu'un qui reprend l'idée même de maniérisme, c'est-à-dire d'un discours sur l'art extraordinairement savant avec des contorsions étranges, c'est Fuseli, qui pourtant critique le maniérisme, pourtant s'inspire de Michel-Ange, qui l'a engendré, et qui est qui est, c'est curieux, je trouve, ce paradoxe, comme s'il se détruisait lui-même ou comme s'il faisait le contraire de ce qu'il annonce. Qu'est-ce que vous en pensez, Eva?
Alors, ces lections qu'il donne à l'Académie royale, ils sont contraires à tout ce qu'il fait dans sa peinture et il y a une raison.
C'est dingue, quand même.
Oui, mais il y a cette anecdote assez rigolo qui, quand il vient d'être un professeur à Royal Academy, il assure ses collègues qu'il ne va pas entraîner ses étudiants dans son style. Alors il va les donner d'autres leçons.
Pour qu'ils puissent se rebeller, peut-être. Parce qu'il y avait un goût de la révolte. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine?
Complètement. Mais il faut aussi penser qu'il y a un décalage dans la société anglaise. C'est qu'on veut enseigner des préceptes académiques. En revanche, dans la pratique, on est obligé de se fier au goût du public. Et donc là, il y a une sorte...
Il y a hiatus.
Exactement.
Ah,
et
oui.
Donc, il faut composer, faire des concessions et devenir pragmatique. Fusilli est un pragmatique.
Je voudrais vous faire réagir l'une et l'autre sur un texte de Goethe qui dit quelque chose qui, je crois, est vrai. Chez Fusilli, la poésie et la peinture sont en conflit permanent. On apprécie le poète, dit Goethe, et on est agacé par le peintre car il est maniéré en toute chose et c'est particulièrement sensible dans l'anatomie de ses personnages et par voie de conséquence dans leur pose. Est-ce que vous avez la sensation que les personnages de Fusilli, ce sont des poses?
Oui, bien sûr. Et très, très exagéré.
Et vous aussi?
Oui, moi j'ai même établi une sorte de répertoire des postures chez Fusilli. Il y a une typologie qu'on peut extraire.
Une rhétorique des gestes, en fait.
Complètement. Qui renvoie d'ailleurs, qui peut renvoyer à des traités rhétoriques de l'époque, qui prennent en exemple aussi des acteurs de l'époque, comme Sarah Siddons ou Philip Campbell.
C'est assez... J'espère qu'elle vient en France, l'exposition, parce que je sais que vous allez reprendre à Bâle l'exposition Cubisme qui est à Beaubourg. Vous allez évidemment l'améliorer, j'en suis sûr. Et l'exposition Fusilli, vous nous l'envoyez ou pas?
Non.
Quel
c'est
dommage.
Ça,
le...
oui.
Quel dommage.
Il faut
aller à Bâle.
Aller le voir.
Non, parce que c'est un des plus extraordinaires artistes qui a fasciné les surréalistes.
Et on a même un tableau du Louvre, alors.
Oui.
Marcel Duchamp, Lebel, Robert Lebel, Breton, avait une passion évidemment pour Fusilli qui est tellement, tellement étrange. Écoutez, je vous remercie infiniment de venir nous allumer notre esprit et notre regard sur Fusilli. Merci beaucoup Eva Reifert, bravo pour avoir fait cette exposition. Merci à Amandine Rabier, j'attends avec impatience la publication de votre thèse. Chez qui?
Aux Presses universitaires de Rennes.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Eva Reifert, conservatrice au Kunstmuseum de Bâle et commissaire de l'exposition Johann Heinrich Fusilli, on ne prononce pas peut-être comme ça exactement, drame et théâtre, et c'est une exposition fascinante. J'espère que l'émission vous la fait ressentir. Et Amandine Rabier qui vient de publier, ou qui est en train de publier, une thèse sur Fusilli, le spectacle de la peinture d'histoire, et ça va sortir aux Presses universitaires de Rennes. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes Andrea Schiffer, prise de son Pierre Monteil, et réalisation fait Franck Lilin évidemment. Chers auditeurs, à 15h30 vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.